Bonjour à chacun. Que vous le vouliez ou pas, il y a un fleuve. Que vous le sachiez ou pas, que vous y buviez ou pas, que vous le croyez ou pas, il y a un fleuve. Il y a un fleuve immense. Il y a un grand fleuve dans lequel Dieu voudrait que nous nous plongions. Ce que j'ai à vous dire ce matin est sérieux, c'est sévère, c'est... Moi, je trouve que c'est grave. Je pense que Dieu m'a préparé pour cette prédication. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas prêts. Ça me brise le cœur. Je ne voudrais pas faire ressortir mes émotions ce matin parce que je ne pense pas que c'est le but. Mais ce que j'ai à vous dire est sérieux. Je suis conscient que c'est bien qu'on prêche à la Sainte-Seine. Je suis conscient que, comme disait notre frère Jérôme, qui l'a rappelé si bien, que Dieu voit dans notre cœur, il sait où nous en sommes. Notre frère disait, il sait s'il y a osmose entre ce que l'on chante et ce que l'on vit. Je sais, hélas, que pour beaucoup, ce n'est pas vrai. Vous savez, quand on prêche l'Évangile, il faut dire des choses difficiles, des choses sévères, des choses encourageantes. Mais en vérité, quand on est chrétien, je pense que quoi que ce soit que Dieu ait à nous dire, on a envie de l'entendre. Je ne sais pas vous, mais moi il me semble que Dieu nous parle avec tendresse, bienveillance, avec sévérité, je vais presque dire avec dureté, qu'importe, mais qu'au moins Dieu nous parle. Vous êtes d'accord? Et il nous faut accepter cette prédication. Je ne dis pas pour moi, je n'ai pas besoin que vous acceptez ma prédication. Ça arrive que des gens, Monsieur Gou, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Alors je leur dis, mais vous savez, ce n'est pas avec moi. Si c'est moi, ce n'est pas grave que vous ne soyez pas d'accord. Si je vous dis, moi j'aime le bleu, vous me dites, moi j'aime le vert, je ne suis pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Mais quand on n'est pas d'accord avec la parole de Dieu et qu'on s'autorise à le proclamer haut et fort devant même des gens qui ne connaissent pas Dieu à la fin d'un culte dans le hall, ça vous montre combien les chrétiens sont loin de Dieu. Alors ce que je vais vous dire, c'est sérieux bien sûr, j'aurais préféré peut-être vous dire autre chose, quoique je ne suis pas sûr. Parce que vous savez, il y a des messages, ils ne font peut-être pas sauter de joie, mais ils peuvent sauver des âmes. Et plusieurs parmi nous, je ne parle pas des nouveaux ou de nos enfants qui ne sont pas encore baptisés, parce qu'eux ont besoin de découvrir l'Évangile, on a besoin de les accueillir. Mais je vais m'adresser à des chrétiens. Ne pensez pas que c'est pour les gens qui découvrent l'Évangile. Si vous venez pour la première fois, vous pouvez, vous aussi, prendre la nourriture nécessaire. Mais mes frères et sœurs, moi je trouve que c'est grave ce que je vais vous dire. Alors, j'ai demandé qu'on chante ce petit cœur, il est un fleuve. Il est ce fleuve, il est pour nous ce matin. Il y a un fleuve, il est pour vous. Il est pour n'importe qui d'entre nous. Même le chrétien le plus hypocrite qui serait connecté le soir sur des programmes pornographiques, c'est pour vous ce fleuve, pour que vous soyez délivrés. Vous savez, il y a ce que nous on veut, ce qu'on aimerait, même pour l'Église, et puis il y a ce que vraiment le Saint-Esprit veut faire. Et vous savez, s'il y a une chose que Dieu veut faire, c'est que son nom soit sanctifié. Vous entendez, mes frères et sœurs, vous le savez, je vous le répète en boucle. Mais entre l'accepter, parce que ça sort de la bouche de notre Seigneur, et puis le vivre, et l'expérimenter 24 heures sur 24, c'est autre chose. Hier, en prêchant, il me faudrait un verre d'eau, s'il te plaît, Lucas, merci. Hier, en prêchant, j'ai été attiré par ce texte qu'on connaît par cœur, c'est dans Jérémie, au chapitre 2. Et ça m'a... Je savais que c'était la parole pour l'Église ce matin. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas bien, des chrétiens qui ne peuvent pas chanter. Jérôme disait, on a chanté... C'est quoi qu'on a chanté là sur... Le premier, c'était quoi le premier qu'on a chanté? Mon cœur est rempli. Voilà. Remettez-le s'il vous plaît, Sophie. Mon cœur est rempli. Bien sûr que... Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Que beaucoup de chrétiens, en vérité, si on était droit devant Dieu, on ne pourrait pas le chanter. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli car Jésus m'a béni, etc. Hein? Car Jésus a pardonné. C'est vrai que Jésus a pardonné mes péchés. Gloire à son sang, il a tout effacé. C'est clair, c'est vrai ça. Mais est-ce que pour autant, Merci. Est-ce que pour autant, nos cœurs, aujourd'hui, sont remplis? Et lorsque Dieu parle au peuple, par le biais de Jérémie, vous savez, ça n'a pas été facile pour lui. Quand on voit le ministère de Jérémie, il n'a rien vu en plus. Il n'a rien vu. Rien vu. Il n'a fait qu'apporter la parole. Il n'a rien vu, ce pasteur. Rien. Regardez ce qu'il dit. Jérémie chapitre 2, verset 13. Ce n'était pas pour les juifs de l'époque, c'était pour les juifs de l'époque. Et c'est pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que pour certains, j'espère que vous allez être sérieux. Parce que c'est pour vous une parole. Croyez-moi. Jérémie chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Je le relis. C'est Dieu qui parle. C'est pas moi. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors c'est sûr que si vous ne connaissez pas le langage biblique, vous ne comprenez pas. Mais si vous êtes chrétien, vous comprenez un peu déjà. Un petit peu avant, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 48, il y a ce rappel de l'importance d'être attentif aux commandements. Ésaïe 48, verset 17. Mes frères et sœurs, si on était sérieux avec la parole, si on était sérieux, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous verrions. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel. Vous avez remarqué cette expression qui revient souvent. Elle pourrait ne pas y être, mais c'est pour que nous comprenions bien que Dieu a quelque chose. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un pasteur ou ce n'est pas un prophète. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, on en a parlé mardi, si vous étiez là, cela revient souvent. C'est une grande promesse, elle est presque trop belle pour qu'on y croie. Je comprends que certains aient du mal à la croire, et pourtant c'est la vérité. C'est Jésus qui parle. C'est le dernier jour de la fête des tabernacles. Les fêtes religieuses, vous savez, ça ne rafraîchit pas beaucoup. Jean chapitre 7, verset 37, Jésus parle. C'est le dernier jour. Ça peut indiquer que c'est ce qui devrait se passer aussi à la fin. Le dernier jour, les derniers moments où Jésus sera, où on sera sur la terre. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Si quelqu'un a soif, alors tout le monde peut dire: mais moi j'ai soif, monsieur Gou. Allez dans la rue tout à l'heure, questionnez n'importe quel pêcheur, n'importe quel athée, et dites-le: mais est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de paix? Ben, il m'avait dit: ben oui, tout le monde a soif de paix. N'importe quel inconverti, n'importe quel rétrograde, n'importe quelle personne sur la terre, vous dites: mais est-ce que tu as soif de justice? Allez dans un palais de justice où il y a un procès et demandez aux gens: est-ce que vous n'avez pas soif de justice? Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Tout le monde a soif de paix. Tout le monde a soif de justice. Tout le monde a soif d'amour. On a chanté, et vous savez, quand on a chanté, Dieu m'a parlé, parce que moi les chants, je vous assure que je les écoute. Et quand on chante ce que mon cœur réclame, c'est cet amour. Mais comment le Saint-Esprit pourra-t-il déverser son amour, qui est un fleuve immense, qu'on ne peut même pas compter? Comment pourra-t-il le déverser dans des vases percés? Et le diable, je vous assure, j'en parle pas souvent, c'est ainsi un peu plus, parce que je pense que c'est nécessaire, mais laissez-moi vous dire que le diable est beaucoup plus rusé que ce qu'on pense. Et je peux vous dire qu'il arrive à faire en sorte qu'on torde les Écritures, comme dit Pierre, justement, pour notre propre ruine. C'est écrit comme ça. Vous savez que c'est vrai. Et lorsqu'il a réussi à tromper Ève et Adam, qui étaient dans une quasi-perfection, ils n'avaient pas de parents alcooliques, parce qu'aujourd'hui, oui, vous comprenez, mon père était violent, ma mère m'a abandonné. Écoutez-moi, je pense que ce n'est pas sérieux. Je pense qu'il y a des traumatismes, mais je crois qu'on a un Dieu qui guérit les traumatismes. Je sais de quoi je parle. Je crois que c'est trop facile de se réfugier derrière plein d'excuses qui nous empêchent de devenir ces fleuves d'eau vive que Dieu veut que nous soyons. Le diable, c'est un menteur. Et de la même manière qu'il a séduit Ève, vous le savez, comment il a séduit Ève, avec des semi-vérités, des machins, vous connaissez. Je pense qu'il nous a séduits. Que dans bien des domaines, nous avons cédé, sans que nous nous en rendions compte, à ces injonctions. Il a réussi à nous faire croire que si on donnait toute notre vie à Jésus, on se perdrait tout. Il a réussi à nous faire croire que si on se consacrait entièrement, on serait les plus malheureux de la terre. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je crois que quand quelqu'un se consacre vraiment, il est heureux. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Dira Jésus à ces chrétiens qui se croisaient riches parce qu'ils avaient réussi. Et béni soit Dieu s'il y a de la réussite matérielle. Béni soit Dieu. Est-ce que c'est bien de réussir matériellement? Est-ce que c'est bien d'apprécier Dieu pour tout ce qu'il nous donne et de jouir de tout ce que Dieu nous donne? Est-ce que c'est bien? Bien sûr. Mais bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec la richesse spirituelle. Et vous savez, j'ai fait allusion à plusieurs reprises à un texte que je ne lis pas parce que jusqu'à présent, je ne l'ai pas lu, enfin bon. Mais dans 1 Roi, au chapitre 11, il y a trois versets, mais qui indiquent exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, dans les Églises. Cet aveuglement, dans 2 Rois 17, si je me trompe, oui, verset 32, regardez bien ce verset. Vous savez, ce sont des choses tellement sérieuses. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont l'impression de craindre Dieu, alors qu'en vérité, leur cœur est rempli d'idoles. Dans 2 Rois, chapitre 17, verset 32, regardez. Mais ça fait peur, vraiment, ça fait peur. Ils craignaient aussi l'Éternel. Et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux, dont des choses que Dieu ne voulait pas. Pris parmi tout le peuple, ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel. Et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Alors Dieu corrige maintenant. Ils ne craignent pas l'Éternel. Et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et au commandement prescrit par l'Éternel. Donc Dieu est en train de dire, voilà, oui, oui, vous me craignez. Vous dites que vous me craignez. Mais les actes que vous avez prouve que ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a une jeune fille, une convertie, qui a été invitée dans une église par une chrétienne. Et elle a discuté avec les chrétiens. Elle leur a posé plein de questions. Et en sortant, cette jeune fille a dit à la chrétienne, « Vous êtes exactement comme nous, sauf que vous allez à l'église. » Je ne sais pas si vous... Et c'était vrai. Parce qu'elle a discuté avec que des jeunes. Et les jeunes faisaient exactement... Les jeunes chrétiens, les mêmes choses que les païens. Ils allaient voir les mêmes films, ils allaient dans les mêmes lieux. Elle est tombée sur une chrétienne super spirituelle qui de temps en temps allait en boîte de nuit pour se faire du bien. Et voilà le résultat. Elle a dit à cette chrétienne, vous êtes exactement comme nous, sauf que vous allez à l'église. C'est en contradiction totale avec ce que l'on chante, avec ce que le Seigneur nous demande de vivre. Et je me demande vraiment, mais je vous le dis, je suis avec vous. Je me demande vraiment si c'est vrai, quand on apprend un nouveau cantique, et que l'on chante, Seigneur, ce que je réclame, Vous rappelez ce que vous avez réclamé? C'est que cet amour infini de Dieu vienne dans notre cœur. Vous vous rappelez? On l'a appris ce cantique. Moi, je l'étudie, je l'écoutais, je suis dans ma prédication. Et quand je chante, ça fait que j'apprends pas trop les nouveaux cantiques. Pardon, Jérôme. Mais mes frères et sœurs, ces fleuves d'eau vive, ou c'est vrai, ou c'est une blague. Quand Jésus a dit à la fin de cette fête religieuse, parce que la religion ne se sert à rien ça sert. Parce qu'on essaie de faire l'œuvre de Dieu avec notre nature. Et le problème, il est là, c'est qu'on essaie de faire l'œuvre du Saint-Esprit avec notre nature, alors que c'est impossible. Nous devons clouer notre vieille nature. C'est écrit de bannir notre vieil homme, c'est écrit. Et nous, on essaie de faire l'œuvre de Dieu, c'est pour ça qu'on ne voit rien. Seigneur, envoie un réveil, continue à arriver, à prier comme ça, vous pouvez le faire, moi je le fais. Parce que ça exprime quelque chose, mais ça ne sert à rien en vérité. Si je vis dans le péché, et le péché, je ne parle pas des grossièretés, hein. Et qu'en même temps, je dis, Seigneur, à mon réveil, mais ça ne sert à rien, c'est comme si... Mais qu'est-ce que vous diriez si Lucas était encore en train de remplir ce verre et qu'il y ait le fond qui soit cassé? Que vous voyez Lucas là-bas dans la cuisine avec le verre, en train de regarder le verre là, l'eau coulée, il se remplit pas vite ce verre. Vous lui diriez, Lucas, change de verre. Oui ou non? Mais c'est exactement ça, ça fait rire. Ça vous fait rire. Mais mes frères et sœurs, quand on est aveugle, on ne voit pas que le verre, il est percé. Et c'est exactement ce qui se passe. Et je vous assure que mon cœur est serré. Parce que je vous dis des choses et je veux vous les dire comme il faut. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont susceptibles. Moi, j'ai repris des gens que je devais reprendre dans l'église. Il me fallait les reprendre. C'est mon devoir de pasteur. Ils sont tous partis. Tous partis. Je veux dire, c'est pas ça qui me... Je ne suis pas payé au rendement. Mais mes frères et sœurs, ça vous montre que ce qu'on chante, c'est pas vrai. Mais parce que des fois, on est obligé, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord qu'un docteur vous dise, si vous voyez mal, si vous êtes, oui, c'est pas ma faute, les gens me rentrent tous dedans, je me prends tous les poteaux, ils traversent tous. Peut-être que le docteur vous dira, mais non, c'est pas les poteaux, c'est vous qui avez besoin de lunettes. Vous êtes d'accord. Vous n'allez pas dire, mais il est fou ce docteur, je suis sûr que c'est les poteaux qui se déplacent. Mais c'est ça qui se passe. Ça vous fait rire, mais je vous assure, c'est ce qui est en train de se passer. Et le Seigneur, à la fin de cette fête, il a fait une chose qui refait ce matin au travers de ma vie. Il pose la question, mais est-ce que tu as vraiment soif de moi? Pas soif de bénédiction, parce que si je vous demande que vous avez soif de bénédiction, tout le monde va lever la main, je l'ai dit. Soif de paix, soif de justice, tout le monde a soif. Et c'est là que le diable commence son travail de sape et nous fait croire que on est dans le coup parce qu'on a soif. Mais Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et venir à Jésus, on l'explique à ceux qui vont prendre le baptême, venir à Jésus, ça commence toujours par une grande vérité. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas dit, moi je suis le fils de Dieu, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, ils ont intérêt à se tenir à carreau, il va falloir qu'ils comprennent. Non, il a dit à Dieu, je viens, pour faire ta volonté. Soyons honnêtes, parce que vous savez, Dieu y regarde au cœur. Qui ce matin, qui peut dire vraiment à Dieu, mais ça c'est que Dieu regarde au cœur. Vous le croyez que Dieu regarde à tous les cœurs? Vous savez, Dieu a ce pouvoir, on est 7 milliards 250 ou 300 millions d'habitants, Dieu a le pouvoir de voir ce qui se passe dans tous les cœurs des hommes. Il est tout puissant, ça veut dire qu'il peut tout, il sait tout, c'est ça que ça veut dire tout puissant. Ça ne veut pas dire qu'il peut déplacer les montagnes, ça c'est rien. Il peut tout voir. Et lorsque Jésus dit à tous ces gens qui étaient là, il ne méprise personne, croyez-moi, il n'y a aucun mépris, même si ma maladresse faisait que je vous dise mal les choses, j'espère que tout le monde sera assez sérieux pour comprendre la pensée de Dieu dans ce que je vous dis, car je vous assure que je réalise certaines choses. Mais qui peut dire ce matin, j'ai soif de Jésus, de faire la volonté de Jésus? Et je viens pour entendre ce que Jésus a à me dire. Je viens vraiment pour sortir de mes travers. Bien sûr que j'ai soif de bénédiction, tout ça, mais je le répète, parce qu'il faut arriver à comprendre. Qui a soif de vraiment boire, d'être rassasié? J'ai pris régulièrement l'exemple de Jésus qui s'adresse à cette église. À qui il peut encore parler? Car croyez-moi, il y a beaucoup d'églises où Dieu ne peut plus parler aujourd'hui. Il y a un pasteur qui a dit dernièrement à un chrétien, si j'invite M. Go à prêcher dans mon église, il y a la moitié de l'église qui s'en va. Il savait ce qu'il disait, parce qu'il savait que j'allais prêcher sur la repentance. Mais moi, ça me ferait peur de dire ça. Mais ça peut vous dire qu'on ne veut plus entendre la vérité. Mais vous vous rendez compte, on a un Dieu qui parle. Dieu parle. Dieu parle, mais vous savez ce qu'a dit Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Oui, on accepte, on met un tampon. J'accepte. C'est vrai. Mais c'est pas ça, accepter. Et hier, je méditais, j'ai des centaines de trucs à vous dire. Et hier soir, je méditais. Vraiment, j'ai dit, mais il faut qu'on soit malade. Il faut qu'on soit malade. Vraiment. Alors qu'en quelques conseils, Dieu nous donne la solution pour que tous les problèmes soient réglés. Oui ou non? En quelques conseils, combien de fois, moi le premier, j'ai lu Apocalypse, je lis l'Apocalypse, j'aime ce livre parce qu'il est rempli de révélations, bon, mais c'est pas parce que je vais connaître et comprendre les révélations que je vais devenir spirituel. Mais combien de fois j'ai lu l'Apocalypse? Combien de fois j'ai lu ce qui concerne cette dernière église, parce qu'elle représente l'église de la fin des temps. Tous les théologiens sont d'accord pour expliquer que l'église de la Odyssée représente l'église de la fin des temps. Et mais hier, je lisais, je dis, mais tu es aveugle, toi aussi. Il y a 5 conseils, 6, qui font qu'on pourrait permettre à Jésus de rentrer. Vous connaissez cette affaire? Quand Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Vous connaissez ce texte? Si vous êtes ici depuis quelques mois, vous le connaissez. À une église qui est tiède, à une église qui est comme nous. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Mes frères et sœurs, si on était bouillant, sérieusement, on ne va pas tourner autour du pot. Si on était bouillant, est-ce que vous ne pensez pas que nos réunions de prière seraient bouillantes? Est-ce que c'est un scoop ou est-ce que c'est simple à comprendre? Est-ce que ça tient debout ce que je vous dis? C'est qu'on n'est pas bouillant, c'est qu'on est tiède. Hein. Il faut dire les choses comme elles, comme elles sont. Quand on voit en quelques conseils comment on pourrait permettre au Saint-Esprit, à Jésus, puisque c'est pareil, on pourrait permettre au Saint-Esprit d'entrer dans l'Église, de se manifester. En acceptant quelques conseils, je te conseille. Prenez compte cette sollicitude. Moi, je suis un petit peu perplexe, pas perplexe, mais bouleversé. Le Seigneur pourrait dire, mais c'est la fin des temps. C'est la fin. Je vais revenir. Bougez-vous. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Ça serait cohérent. Je veux dire, personne ne serait frustré parce que le Seigneur nous secourait. Personne. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si mon cœur est serré, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai à vous dire, si mon cœur est serré, c'est parce que je crois que le Saint-Esprit m'a amené à quelque chose. C'est à travailler pour aider tous les chrétiens, et ça me brise le cœur, tous les chrétiens qui ne sont pas prêts. Et il y en a parmi nous. C'est pas le boulanger demain qui va vous dire « t'es pas prêt ». C'est pas le garagiste qui va vous dire quand vous allez faire le plein, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Si vous ne l'acceptez pas de moi, c'est vraiment grave. Si vous n'acceptiez pas que votre pasteur vous interpelle, parce que je peux vous dire que Jésus est à la porte et qu'il va y avoir beaucoup d'effroi, beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Je ne vous apprends rien. Et pourtant, je dois vous le dire. Est-ce que vous êtes sûr que si Jésus revenait, est-ce que vous êtes sûr de dire, mais oui, ma lampe est pleine d'huile. Je veille sur mon âme tous les jours. Oh, ne commencez pas à nous casser les pieds tous les jours. Oh, je l'ai entendu, ça. J'ai pas le temps, moi. Mes frères et sœurs, je pense qu'il faut être sérieux. Si Dieu, le Très-Haut, dit dans sa parole, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, moi je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais vous n'avez pas soif. Vous vous faites croire que vous avez soif, mais vous n'avez pas soif. Si vous ne faites pas votre culte personnel, au nom de l'excuse que vous voudrez, vous n'avez pas soif. Je ne sais pas si je le dis bien, mais mes frères et sœurs, quand Jésus va revenir, ça va arriver. Jésus va arriver, le dimanche d'après, il va y avoir du monde qui va venir. Oui ou non? C'est vrai. Et ceux qui ne sont pas prêts, ce matin-là, ceux qui ne sont pas prêts, vous seriez furieux contre moi. Furieux. En colère. Si je ne vous avais pas dit de revenir à Dieu de tout votre cœur, que cette soif que vous avez, ce n'est pas la vraie soif de Dieu. C'est une ruse du diable, c'est un mensonge de l'ennemi. La soif de Dieu, elle est caractérisée par quelqu'un qui veut se retrouver avec Jésus. Il a soif de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Se retrouver avec lui. Il y a des gens, ah non, moi, la compagnie de Jésus. Eh bien, écoutez, si vous n'aimez pas la compagnie de Jésus, ce n'est pas bon du tout. Vous préférez la compagnie de vos amis? C'est bien, les amis? C'est bien d'avoir des amis et de les retrouver? Oui, c'est bien. Et j'espère que vous en avez. Peut-être pas beaucoup, mais j'espère que vous avez quelques amis avec qui vous pouvez parler et ouvrir votre cœur. Mais qu'est-ce qu'elle vaudrait, la compagnie de ses amis? Si vous ne connaissez pas la compagnie de Jésus, peut-être que ça ne vous dit rien du tout. La bénédiction de Jésus, ça vous suffit, mais moi, monsieur, vous avez tout ce que j'ai. Eh bien, justement. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis obligé d'aller chercher la joie dans les choses de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyons honnêtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis obligé d'aller chercher la joie au cinéma. Je suis obligé d'aller chercher la joie dans telle activité. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les activités de la vie, c'est les activités de la vie. Et je crois que les activités de la vie, ce sont des bénédictions. Aller au travail, c'est une bénédiction. Je répète. Le travail, c'est une bénédiction. Et le diable, il peut commencer avec ça. En vous amenant au travail, des gens râlant, il y a des gens à 25 ans, vivement que j'ai la retraite. À 25 ans, ils calculent. L'autre jour, j'ai discuté avec une femme, c'est pathétique, je vais vous dire, mais on était à Castorama avec ma femme, on a acheté un petit truc, je ne sais plus quoi. Et puis il y a une femme qui était là, âgée, un peu plus âgée que moi. Elle avait une soixantaine d'années. Je commençais à lui parler, je voyais qu'elle était toute triste. Et je lui dis, on lui parle, ça, je dis, vous savez, je suis chrétien, tout ça, etc. On parle. Et au bout d'un moment, elle me dit, vous savez, je suis désespéré. Mon mari, toute sa vie, il a attendu la retraite. Toute sa vie. Toute sa vie, il m'a dit vivement que je prenne la retraite. 6 mois après, il s'est suicidé. Il en avait marre de vivre. Mes frères et sœurs, on est dans un monde de fous. Et ce monde de fous, Dieu l'aime, malgré tout. Et il faudrait commencer à vraiment se poser la question, parce qu'on dit « Saint-Esprit, baptise-nous », on a des séminaires de fous sur la vie de l'Esprit. Mais vraiment, je crois qu'il faut vraiment commencer par le début. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il y a des gens qui n'ont pas renoncé, ils font leur volonté. Laissez-moi parmi nous. Écoutez, je vous le dis, si vous avez besoin de faire le point, prenez une visite avec moi. Mais il faut que vous sachiez que vous n'avez pas soif de Dieu. Si vous avez soif, vous le savez. Si vous vous retrouvez tous les jours dans la présence de Dieu, eh bien, ça prouve que vous avez soif. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a des causes à effet. Oui ou non? C'est pas logique. Si vous faites votre culte, si vous aimez tous les jours prendre votre Bible, et en fonction du temps que vous avez, c'est sûr que si vous êtes directeur d'une société, vous n'avez peut-être pas 2 heures de temps à vous tenir devant Dieu. Mais vous pouvez prendre 20 minutes de qualité. Oui ou non? Si vous êtes entrepreneur, si vous avez des ouvriers pleins de boulot, je le comprends. Si vous êtes peut-être à la retraite, vous pouvez avoir plus de temps. Mais je pense que le problème, ce n'est pas une question de temps. Le problème, c'est une question de vérité. Est-ce que, oui ou non, j'aime me retrouver seul avec Jésus dans sa présence, parce que c'est fleuve d'eau vive, ou c'est une blague, et le Seigneur a voulu nous faire rêver, ou alors il y a des fleuves. Des fleuves où je pourrais chanter, oui, mon cœur est rempli de joie. Parce que je peux vous dire que ça doit être archi frustrant. Je l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas pasteur. Je suis d'abord chrétien. Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que c'est de chanter. Mon cœur est rempli de joie. Je me dis, tu le chantes ou tu ne le chantes pas? Il y a une époque où je ne pouvais même pas chanter. On ne chante pas ici, celui-là. Mais c'est dans une autre église où ça allait très, très, très mal. Et pas parce que je désobéissais. Ça allait très, très mal. Quand on chantait que j'aime la famille de Dieu, je ne pouvais pas le chanter. Je ne pouvais pas le chanter. Tellement j'étais en pétard avec des frères, des pasteurs. Je vous dis la vérité. Quand tu chantais que j'aime la famille de Dieu, je t'ai dit, non, tu ne peux pas chanter ça. Tu peux bien cacher certaines choses, mais tu ne vas pas jouer. Tu ne vas pas taper l'hypocrisie jusqu'à ce point. Je n'ai pas pu le chanter. Et je sais qu'on peut chanter « Mon cœur est rempli de joie » et puis entendre une prophétie où quelqu'un rappelle, où Dieu rappelle à quelqu'un qu'il a même pensé à se supprimer. Quoique ça, ça peut faire partie des tentations du diable aussi qui veut nous décourager. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais mes frères et sœurs, si on a soif, on va se dire « Mais c'est vrai, moi j'aime Jésus. Bon, j'aime Jésus, je crains Dieu comme on l'a lu dans Roi. Et en même temps, j'adore les idoles. Enfin, vous savez... Il y a un problème. Si j'aime Jésus et qu'en même temps j'ai besoin de trouver ma joie dans les choses de la terre, et soyons honnêtes, c'est que le Seigneur Jésus ne me donne pas toute la joie qu'il pourrait me donner. Si j'ai besoin de paix, je ne sais pas, dans un truc ou dans un autre, ah, ça m'apaise, ça me fait du bien. Mais moi je crois que le Seigneur il est capable de vous donner toute la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que Dieu peut vous combler de paix? Que Dieu peut vous donner sa joie. Est-ce que vous croyez à la joie du Seigneur? Est-ce que vous y croyez vraiment ou que vous croyez que c'est juste dans le ciel quand on sera parfait? Est-ce qu'il y a une joie parfaite sur la terre? Oui. Et nous devrions être honnêtes. On va prendre le pain et le vin. Il faut que ça soit une victoire, une délivrance. Moi, je vous assure, parce que je me prépare, je ne veux pas apporter, je vous l'ai dit, je ne veux pas apporter une prédication. Moi, des prédications, j'en ai des centaines. S'il y a un stagiaire qui en veut, des photocopies, il peut l'avoir. Des centaines. Vous savez, j'aurais qu'à aller dans mon bureau et prendre un bouquet. J'ai des centaines de prédications que j'ai fait moi. Sérieux. Et je pourrais la prendre et dire voilà, demain matin, si je prêche une prédication que j'ai faite il y a 15 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte que ce que j'ai prêché? Vous rappelez ce que j'ai prêché il y a 15 ans en septembre? Mais et on peut le faire sérieusement. Mais mes frères et sœurs, on a besoin de la pensée de Dieu. Et ce matin, c'est vrai que mon cœur est dans la joie. Mais mon cœur est dans une souffrance. Parce que je sais que parmi nous, je le sais, il y a des chrétiens qui sont en train d'abandonner Dieu. Et qui sont en train d'abandonner la source de vie. C'est pathétique. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et ils cherchent dans le monde. Et voilà, tiens, on va aller voir tel film. Moi, quand je vois ce que certains chrétiens regardent, maintenant, je ne sais plus. Mais moi, j'ai vu des chrétiens qui m'ont même dit, je me souviens, on était avec ma femme, on mangeait avec un pasteur, et on discutait de choses sérieuses. Et puis le pasteur nous dit, ben moi, j'ai besoin de rire. Ah ben, j'ai dit, ben c'est bien. Et il me dit, on te conseille, il nous a dit, voilà, vous devriez louer ce film. Et vous allez vous marrer, vous allez vous éclater. Ben nous, bêtement, on va louer le film. On a regardé les 3 premières minutes. Sincèrement, de la vulgarité, des mots à double sens. Vous croyez que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, sérieusement, que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut regarder des trucs pareils? Et on est là, on a été berné par le diable. Si vous avez soif de Jésus et si vous buvez dans sa présence, je peux vous dire que ce qui est écrit dans l'Apocalypse, on va le vivre. Ce n'est pas des blagues. Des blagues, il n'y en a pas besoin dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Il y a un peu d'humour, on le voit dans la parole. Il y a un peu d'humour intelligent, on le voit. Comme quand Élie dit au prophète de Baal, peut-être que Dieu est en vacances, qu'il se repose, vous savez. Vous expliquez vraiment, bon, Élie faisait un peu d'humour. C'est juste, c'est sain, S-A-I-N. Mais mes frères et sœurs, je suis en train, vous pouvez le faire avec une concordance. Regardez, toutes les fois, on voit que Dieu, excusez-moi l'expression, mais meurt d'envie de nous rassasier. On le relit ce texte. Moi, hier, je disais, mais c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on ait été berné, aveuglé, trompé, séduit par le diable pour ne pas comprendre qu'en quelques conseils, on peut avoir Jésus dans notre maison. Il n'y a pas quelqu'un ce matin qui voudrait dire, mais Seigneur, touche-moi. Il y a quelqu'un qui aimerait être touché par le Saint-Esprit? Vous vous rappelez quand Jésus a prêché sur le sermon sur la montagne? Sermon sur la montagne. Qui n'aurait pas aimé être ce jour-là en Galilée pour écouter le sermon sur la montagne? Qui n'aurait pas aimé entendre ce sermon? Moi, quand je le lis, des fois, je dis, Seigneur, t'aurais pu me faire naître 2000 ans plus tôt. C'est une façon de parler. Quand Jésus a fini de prêcher, il est dit que les gens étaient frappés par sa doctrine, parce qu'il prêchait avec autorité, non pas comme les scribes. Et la foule le suivait. Écoutez bien. La foule le suivait. Et puis il y a un gars, conscient de son besoin, il nous est dit qu'il était lépreux. Lui, il n'a pas suivi. Il s'est approché. Vous connaissez cette affaire? À l'évangélisation, vous avez entendu ça souvent. Il s'est approché de Jésus avec ses habits déchirés, car il devait porter des habits déchirés. Il s'est approché, il avait pendant des années, il avait dû hurler à distance des autres, impur, impur. C'était une vie terrible. Il a même risqué la lapidation. Il n'en pouvait plus, mais il a entendu le message. Il a entendu Jésus, bien sûr, c'était Jésus. C'est sûr que c'était Jésus. Mais quand même, si le pasteur n'est pas toujours inspiré, ce qui est vrai, est-ce qu'on n'a pas tous la même Bible? Est-ce qu'on n'a pas tous le même Seigneur? Alors arrêtez de dire, oui, c'est le pasteur de mon église, je ne suis pas bien parce que mon pasteur... Arrêtez! Je ne parle pas pour moi, je parle à ceux qui m'écoutent. Et comprenons que nous avons tous la Bible. C'est une bénédiction d'avoir la Bible. C'est une bénédiction d'avoir le Saint-Esprit. Et quand je vois qu'en quelques conseils, il n'y a pas besoin de faire une tartine de trucs compliqués, inimaginables, je suis sûr qu'on dira à quelqu'un qui est malade, écoute, allez, va à Paris à pied. Va à Paris à pied et Dieu te guérira. Mais il y en a qui le feraient. On leur dit, mais plonge-toi dans la parole. Ils ne le font pas. Qu'est-ce que vous préférez? Aller à Paris à pied? Ou vous plongez 7 fois dans la parole? Comme vous avez vu à qui je fais allusion. Qu'est-ce que vous préférez? Vous plongez 7 fois ou aller à Paris à pied? Répondez-moi. Et pourtant, je suis sûr qu'il y en a qui le feraient. Alors lisons ces conseils. Mais est-ce qu'on veut les lire? Bien sûr, vous allez les accepter. Est-ce qu'on veut les croire? Ça ne suffit pas. Est-ce qu'on veut les intégrer dans la doctrine? Ça ne suffit pas. Est-ce qu'on veut les appliquer à notre théologie pentecôtiste? Ça ne suffit pas. Il faut l'expérimenter. C'est une église qui va pas bien. Dieu lui parle. C'est pas si mal que ça déjà. Oui ou non? C'est bien quand même? Ben oui. C'est une église qui va pas bien. Je connais tes œuvres. Vous savez, les œuvres, c'est une chose. Mais ce que l'on vit, ça n'est une autre. Souvent, Dieu dit, je connais tes œuvres. Dieu dit, je connais. Mais les œuvres, ça veut rien dire. C'est pas parce que je distribue, comme je le disais, 3 sardines à des gens qui ont besoin, que je fais. Ça fait de moi un type spirituel. Est-ce que vous comprenez? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est une parole d'une sévérité totale. Parce que Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Il vaut mieux être froid que tiède. Parce que quand on est froid, on sait qu'on est dans le péché. Un chrétien qui ment, par exemple, un chrétien qui ment continuellement, il sait qu'il est perdu. Est-ce qu'il le sait? J'espère. Par exemple, si vous vivez dans l'adultère, dans un péché quelconque, si vous vivez dans le péché, vous êtes froid et vous savez que vous êtes perdu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes perdu. Quelqu'un de tiède, il surfe entre le monde et l'église, il ne sait pas qu'il est perdu. C'est pour ça qu'il te dit, mais mieux vaut être froid que tiède. Parce que quand on est tiède, on est mal partout. On est mal à l'église et on est mal dans le monde. C'est vrai. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce, tu ne sais pas, voyez. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas. Moi, j'appelle ce chapitre l'évangile de l'illusion. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et voyez, mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous sont pauvres, misérables, aveugles et nus. Et quand ils chantent ces cantiques, ces si beaux cantiques, ils le chantent en espérant qu'un jour ça va se manifester. Vous voyez, je te conseille. Alors, on peut les relire avec le cœur, pas avec les yeux de notre tête, mais avec les yeux de notre cœur. On peut les lire, ces conseils. Je te conseille d'acheter D'acheter, alors, d'acheter, c'est clair, c'est un effort. De moi, donc de Jésus, de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Je l'ai dit 50 fois, je le redis, je ne veux pas me lasser. Ça ne serait pas bien de ma part. Ça serait de l'orgueil de ma part et un manque d'amour. Mais je peux vous dire qu'il faut que nous achetions de l'or éprouvé par le feu si nous voulons vraiment devenir riches, c'est-à-dire du temps de qualité dans la présence de Dieu, du temps vraiment de qualité qui nous permettra de voir notre cœur fondre et de pouvoir saisir des choses de Dieu et enlever ce qui ne va pas. Des vêtements blancs, c'est un conseil, des vêtements blancs. Ça, bien sûr, ça ne peut que nous parler de sainteté, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour la sanctification? Vous le savez le soir quand vous regardez la télé, si ce que vous regardez c'est sain ou pas. Oui ou non? Est-ce que c'est pas sérieux cette affaire? Moi j'entends de ces trucs, mais je vous assure, pour moi il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est obligé. Mais Dieu nous demande, si nous voulons qu'il marche au milieu de nous, que nous achetions ces vêtements blancs, c'est-à-dire que nous fassions les efforts nécessaires pour vivre dans la sanctification ou dans la sainteté. Est-ce que c'est important pour vous la sainteté? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que vous dites, mais oui, c'est sérieux. Est-ce que vous voulez voir tous vos enfants se convertir? Eh bien, commençons à nous sanctifier. Commençons. C'est un conseil, Dieu ne nous force pas. Le conseil nous indique bien que Dieu ne nous forcera jamais. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, et reprends-toi. Quatrième, cinquième conseil. Voici, je me tiens à la porte. Merci Seigneur pour sa patience. Et je frappe. Si quelqu'un entend, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un sixième conseil. Si quelqu'un entend, qu'est-ce que vous entendez ce matin? Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez la voix de votre pasteur? Ou est-ce que vous entendez Dieu parler à votre âme? Il faut que vous puissiez vous répondre, parce que c'est là la clé de la bénédiction. Si quelqu'un entend, quelqu'un c'est n'importe qui, si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous croyez que les brebis du Seigneur connaissent la voix de Jésus? Moi je crois que oui. Que la parole de Dieu, c'est une épée qui est capable de trancher de suite. Quand je vois le nombre de chrétiens qui tombent dans les fausses doctrines, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils croient n'importe quoi, n'importe quoi. Il y a un chrétien qui me disait l'autre jour, qu'il y avait une chrétienne qui lui avait dit, « Quand tu t'es converti, écoutez, ça fait pitié, quoi. Quand tu t'es converti, est-ce que tu as vomi ?» Ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas. Il a dit non, alors tu n'es pas converti. Cette personne avait été à un séminaire et on lui avait dit que quand quelqu'un se convertissait, il fallait qu'il vomisse, il fallait qu'il... Non mais, il faut vraiment, vraiment, vraiment être dans les choux. Il faut vraiment être... Écoutez, je prends un terme biblique, parce qu'il est vrai, taré. Si c'est écrit des hommes tarés, est-ce que c'est parlé? Oui. C'est vraiment grave, parce que c'est... Est-ce que dans la Bible, il est écrit, voilà, quand les gens se convertissent, il faut qu'ils vomissent. Est-ce que tous les gens qui se sont convertis, il n'y en a pas un? Et je crois que nous avons affaire à de plus en plus de gens qui ne veulent pas la parole de Dieu. Ils ont faim et soif. Ils ont faim et soif de fausses doctrines, de fables, des trucs qui leur plaisent. Ça, c'est sûr qu'ils ne veulent pas des prédications comme celle-là. Ça, c'est sûr. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que vraiment j'entends Dieu me parler? Est-ce que j'entends Dieu qui me dit, mais... Je frappe, vous rendez compte, quelle sollicitude. Je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Là, il y a ce septième effort, je vais ouvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais je veux le faire. Je veux me retrouver avec Jésus. Si vous le connaissez, si vous avez envie de le connaître, vous savez très bien que ça ne peut que bien se passer. Cette vraie joie, cette vraie paix, cette grâce, ces fleuves d'eau vive. Il le dit, je rentrerai. Vous avez vu ce qu'il fait? Je souperai, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je vous l'ai dit que dans la tournure hébraïque, ça veut dire, juive, ça veut dire que c'est lui qui amène tout. La nourriture, parce que nous, on n'a peut-être pas grand-chose à donner. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner des fleuves d'eau vive? S'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et moi, ça vous assure. C'est ce qui me brise le cœur. Parce que je sais que Jésus va revenir bientôt. Et que parmi nous, il y a des chrétiens qui sont d'une légèreté, qui sont en contradiction complète avec la parole, qui sont un scandale, il faut dire les choses, un scandale aux païens, comme cette jeune fille qui a dit à cette chrétienne, mais vous êtes comme nous, sauf que vous allez à l'église. C'est scandaleux. Alors nous, on est gentils, ouais, mais tu comprends, tatatata. Non, écoutez, où on est sérieux, devant Dieu. Parce que, est-ce que vous le croyez que si on obéit à ces quelques conseils, le Seigneur marchera au milieu de nous? Est-ce que quelqu'un croit de tout son cœur, déjà, chez lui, s'il accepte ces conseils, est-ce que vous croyez, si quelqu'un, vous avez vu, vous avez remarqué souvent, il parle à tout le monde, puis paf, tout d'un coup, le Seigneur parle à l'individu. Vous avez remarqué? Quand il parle à Amos, il parle à tout le peuple, vous ceci, vous cela, puis il dit, paf, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est personnel. Cette affaire-là, bien sûr que je parle à tous les frères et sœurs et aux milliers de gens qui écoutent sur Internet. Je le sais. Mais c'est individuel. Qui a envie de souper avec le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, on va prendre le pain. Je termine avec cette pensée. On va prendre le pain et le vin. Vous savez, le vin, ça parle du sang. Le sang, ça nous parle d'une séparation aussi. D'une vraie séparation. Et moi, je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais je pense que j'en ai suffisamment dites. Ce que je voudrais, c'est que vous répondiez à Dieu, pas à moi. Moi, oui et non. Mais qu'est-ce que vous allez répondre au Seigneur après cette exhortation? On peut fermer les yeux? Je vais demander à Monsieur de Dieu de prendre des frères. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Recueillons-nous. Je m'adresse à chacun. Tout à l'heure, je vous ai dit, si l'Église était bouillante, les réunions de prière le seraient. Et là, vous vous êtes fait, excusez-moi l'expression, comme on dit chez nous, rouler dans la farine. Quand on arrive à zapper son culte personnel et trouver une excuse comme qu'on continue à aimer Dieu, imaginez un gars qui aime le foot, qui ne va jamais à l'entraînement, qui ne regarde jamais un match de foot et qui vous dit « Oh, mais moi j'aime le foot, oh, moi j'aime le foot. » Et qui ne va jamais à l'entraînement, qui ne sait même pas qui c'est qui joue. C'est pas vrai. Il se leurre. Et c'est exactement ce qui se passe pour plein de chrétiens. Est-ce que tu aimes Jésus? Ah oui, monsieur Gauche, j'aime Jésus. La Bible dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Oui, tout ça, ça se recoupe. Et je m'adresse à vous, mes frères et sœurs, parce que je suis votre pasteur. Plusieurs parmi vous, si Jésus revenait, vous resteriez là, dans le désarroi. Vous aimez le monde. Vous aimez plus le monde que Dieu. Vous aimez plus la télé que Dieu. Et vous savez que c'est vrai. Ne dites pas non, ce matin il est raide. On le connaît, Monsieur Gault, il est comme ça. Non, je ne pense pas que c'est Monsieur Gault qui vous parle. Je pense vraiment que le Saint-Esprit est en train de vous montrer que les temps sont courts. Que Jésus va revenir et que ceux qui ne sont pas prêts, vous devriez prendre au sérieux ces choses. On en parlait hier avec ma fille qui me téléphonait. Pourquoi Jésus a appelé les vierges qui n'avaient pas d'huile? Des vierges folles. Elle me disait, comment on les appellerait aujourd'hui les vierges? Alors j'ai dit, aujourd'hui on dirait qu'elles sont oublieuses. On dirait qu'elles sont négligentes. Oh, c'est pas grave, tu n'as pas été à la réunion de prière, c'est pas grave. Jésus a dit de ces vierges qui n'avaient pas d'huile qu'elles étaient folles. Parce que c'est de la folie que de ne pas écouter ces choses. Vous entendez? Et moi je vous dis, mes frères et sœurs, si nous voulons que Jésus rentre avec ses flots de fleuves, cette abondance de nourriture, de paix, de grâce, si vous voulez chanter à la prochaine réunion, oui, mon cœur est rempli de joie. Il y a des chrétiens, ils sont déprimés, ils sont tout le temps en train de pleurer, ils sont tout le temps en train de râler, et vous disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est un leurre, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est imparable. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, Oui, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs. Tu vois exactement où nous en sommes et en tous les cas, nous, nous voyons ce que tu veux. Que tu veux entrer dans ta maison. Tu vois tous ceux qui semblent te craindre et qui en même temps servent les idoles dans leur cœur. Tu vois tous ceux qui sont attachés aux choses de la terre, à leur maison, plus qu'à toi. Seigneur Jésus, tu vois ce moment de sainte scène. Merci pour ce vin. Merci pour le pain. Oui, tu es venu pour faire la volonté de Dieu. Et nous aussi, nous sommes là ce matin pour faire ta volonté. Nous le croyons et qu'il y a un fleuve qui réjouit le cœur de Dieu. Merci Seigneur pour ce fleuve intarissable de grâce, de pardon, de paix, de joie, ce fleuve de vie. Tu connais tous mes frères et sœurs qui ne sont pas bien, qui ne vont pas bien, qui sont enfermés, qui ne peuvent pas chanter, qui sont libres, qui sont esclaves du péché. Seigneur, ce matin, délivre dans cet auditoire. Délivre des choses de la terre, délivre des choses diaboliques, délivre des choses mauvaises, perverses. Oui, Seigneur, nous le croyons que lorsqu'il y a l'onction, il y a la délivrance. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit béni.